le 22 septembre 2016 dans le journal Libération par le collectif Catastrophe. Ni désabusés, ni cyniques, ils ont moins de 30 ans, ils sont une quinzaine à s'engager dans un mouvement qu'ils ont nommé Catastrophe. Prêts à tout, mais pas n'importe comment. Nous avons grandi dans une impasse, cerne d'un réseau de petites phrases, anxiogènes qui s'aggloméraient comme des narcotiques dans nos cerveaux en formation. Enfant, nous avons pris connaissance du monde en même temps que de sa fin imminente. Pas un jour sans qu'on entende à la radio des nouvelles de ces deux sœurs morbides, Madame Dette et Madame Crise, dont les ombres dans nos têtes enflaient sans cesse. Finiraient-elles par exploser? Non, c'est le chômage, le trou de la sécu et son acolyte de la couche d'ozone qui s'en chargeait. Les tours aussi, le 11 septembre de nos 11 ans. Dans nos têtes d'enfants saturées de ces traumatismes subliminaux, l'idée de l'apocalypse naissait au début des années 2000. Nous n'avions pas 20 ans, nous arrivons trop tard. Au lycée, on nous avertit d'emblée que l'histoire était finie. On nous expliqua que Dieu, le roman et la peinture étaient morts. Sur les murs de la capitale, on nous apprit que l'amour était aussi. Nous n'en connaissions pas le visage, que nous apprit que déjà nous n'avions plus le droit d'y croire. Notre adolescence a passé comme ça, sans que jamais rien ne se passe. À l'université, nous nous découvrions post-moderne dans les livres de Gilles Lipovetsky et d'Alain Finkielkraut de Marcel Gauchet. La formule ailleurs revenait souvent, recouvrant indistinctement tout ce qu'il y avait de contemporain. On l'accompagnait généralement d'un sourire sarcastique que nous imitons sans tout à fait le comprendre. On nous inculquait ce schéma ternaire, pré-moderne, moderne, post-moderne, grille de lecture aux ténailles qu'on nous présentait comme neutre, quand, insidieusement, celle-là avait déjà décidé pour nous qu'il n'y avait plus rien à faire. On était déjà à l'épilogue du récit mondial de l'humanité. L'hypothèse communiste, un délire de pyromane. Mai 1968, une bataille de boules de neige. L'idéal du progrès, on avait vu Hiroshima. Les utopies avaient été ridiculisées. La poésie rendue barbare après Auschwitz, les rêves, n'en parlons pas. Nos ambitions se réduisaient à quart d'heure de gloire ou à rien. Un éphémère et puis s'en va. Avec les autres époques, nous avions le sentiment de ne plus tenir la comparaison. Français, nous étions saturés de rêves de gloire en même temps que divorcés de l'histoire, comme affligés d'un complexe d'infériorité à son égard. Toujours, et sans que nous n'ayons décidé quoi que ce soit, nous nous situons après une génération de retardataires qui se sentaient tout petits en face des statues de pierre. Nous n'avions pas 20 ans, nous arrivions trop tard. Alors que faire? Mourir éventuellement? En restant vivant si possible, devenir un spectre de soi-même avec l'ennui et l'orgueil, comme seul moteur prenant comme modèle des anti-héros mégalomanes, Michel Auerbach, souvenez-vous-en, fondamentalement, vous êtes déjà mort. Yves Adrien, l'auteur, virtuellement mort en 2001, de F pour fantonisation. Ou Frédéric Beder, je suis un homme mort. Je me réveille chaque matin avec un insoutenable envie de dormir. À nouveau, que faire? Une autre issue? Regretter, avec Muraille, Dantec et les autres, pester contre l'homo vis festibus. Le jour fustigé de les bisounours, puis la nuit pudiquement rêvée aux chevaleries d'avant. À l'extrême rigueur, enfin, agir à l'extrême. Devenir une bombe, promener la haine de l'autre, exercer la terreur. À défaut de savoir comment s'y comporter, travailler à l'extermination du monde tel qu'il est. Une nouvelle triade de la résignation. Celui qui disparaît, celui qui regrette, celui qui tue. Pour les autres, il reste l'oubli, la consolation des objets, l'anesthésie par les loisirs. De toutes ces figures possibles, nous ne nous reconnaissons dans aucune. Alors à nouveau, que faire? La réponse est simple. Renaître. Comment il nous plaira. Nous sommes comme les personnages de la pièce de Shakespeare, fuyant désormais un modèle de société qui nous a déjà bannis. Entendant tout sauf désabuser, nous n'avons plus d'autre choix que celui d'inventer une nouvelle voie. La place est déjà prise, trop prisée. Nous irions ailleurs, explorer, sur les ruines des Trente Glorieuses, Certains d'entre nous, au-dessus du seuil de pauvreté, nous ferons très exactement ce que nous voulons. Tant pis pour le confort, tant pis pour la sécurité, et tant pis si nous ne sommes plus capables d'expliquer à nos parents ce que nous faisons de nos journées. Nous sommes soutenus par l'amour que nous portons. Où nous l'a de toute matière assez répétée, il n'y a plus d'issue, donc acte. Indépendant, multitâche et bricoleur. À distance d'un théâtre politique dont on n'en comprend plus la langue, nous aspirons l'émancipation, quitte à consentir à une certaine précarité. Le système D s'ouvre. Comme une alternative possible au salariat, nos petites entreprises côtoient, et à nos yeux égales, les grandes institutions.
Bonjour, aujourd'hui on est au AP Audiothèque, au lycée français du Caire. Je m'appelle Jessica, je suis avec Colline.
Bonjour.
Paul.
Bonjour tout le monde.
Youssef.
Bonjour.
Et monsieur Ruffin.
Bonjour.
Prof de maths.
C'est ça, je suis professeur de mathématiques au lycée du Caire.
Et aujourd'hui nous allons débattre du texte lu par Malak, qui s'intitule « Puisque tout est fini, alors tout est permis » et qui est écrit par le collectif Catastrophe. Donc d'abord, j'aimerais demander si vous pensez que ce texte est un texte optimiste parce qu'il parle de se libérer des contraintes de la vie et de faire un peu tout ce qu'on veut, ou alors plutôt pessimiste parce qu'il évoque aussi la fin du monde.
Pessimiste, optimiste, c'est vrai que ce texte il est un peu bifige de façon de le lire, mais je pense aussi que ça dépend de l'âge que l'on a quand on le lit. Moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça un peu triste que ces jeunes-là, ils sont plutôt jeunes, puissent avoir de telles idées en tête. Hein. Vous qui êtes beaucoup plus jeune, quelles sont vos idées par rapport à cet optimisme ou ce pessimisme ?
Eh bien, moi, je savais qu'il y avait des problèmes dans le monde, mais je voyais pas les choses d'une manière aussi défaitiste, on va dire.
Colline ?
Chacun a une façon différente de voir le monde, alors tout dépend de la personne qui lit. Et toi, Jessica ?
Je trouve que le texte, il est optimiste, parce qu'ils ont toujours moins de 30 ans, mais ils n'ont pas encore... ils n'ont pas encore une vraie vie.
Moi,
je dirais plutôt qu'il est ni vraiment ni pessimiste ni optimiste, car en vérité c'est juste un texte réaliste. Il raconte ce qu'il y a dans la vraie vie et ça peut être interprété soit d'une manière positive soit d'une manière négative dépendant de la personne qui le lit.
Donc effectivement c'est intéressant ce que tout le monde dit, puisque on a essayé d'interpréter le texte du point de vue de tous les âges la semaine dernière, du point de vue d'une personne âgée, d'une personne jeune ou d'un adulte. Donc on voit que chacun ici voit le texte d'une manière différente, mais ça serait peut-être parce que ici se sont réunies différentes générations. Donc vous, monsieur Ruffin, qui par exemple êtes adulte contrairement à nous, peut-être que avant vous savez que les jeunes ne voyaient pas les choses comme aujourd'hui.
Alors absolument, et je me souviens à mon époque, vu mon année de naissance que je ne citerai pas, on parlait beaucoup de 1968, et 1968 ça a été véritablement pour ma génération pas un modèle, mais en tout cas quelque chose qui s'est passé d'important dans la société avec de grosses conséquences politiques, sociales, économiques. Et même si moi je ne me sentais pas forcément concerné, mais ma société de l'époque a été très frappée par cela. Mais justement, Paul, je voudrais rebondir. Dans ce texte, il est fait état de mots qui me semblent lourds et je voudrais savoir ce que des jeunes gens comme vous pensaient de cela. On parle par exemple dans ce texte, la fin du monde est imminente. On parle de l'idée de l'apocalypse. Est-ce que vous, en tant que jeune de moins de 18 ans, vous avez ce sentiment-là ?
Eh bien, personnellement, j'ai toujours su que la fin du monde arriverait un jour, mais j'ai jamais vu ça comme quelque chose d'imminent, quelque chose qui est toujours repoussé et qui arriverait dans des milliards d'années, donc qui ne me concernerait plus. Donc, je peux dire que c'était le cadet de mes soucis.
Bah, Pour moi, la fin du monde, c'est la mort. Donc comme nous allons mourir un jour ou l'autre, et pas dans des milliards d'années, la fin du monde est proche, comme le dit le texte.
Eh bien, moi, je prends que la fin du monde, en général, c'est comme un... C'est un mot lourd. Mm-hmm. C'est un mot lourd, genre... Tu peux pas, d'un coup, te réveiller et te dire « Ah, aujourd'hui, c'est la fin du monde. » c'est un peu dur de dire ça. Et je pense que c'est... Que... Oui, ça va arriver dans quelques années, ou je sais pas quoi, mais...
Mais tu as le sentiment que c'est proche.
Ouais. Ah. Parce qu'il y a tremble, là, tout ça. Ok.
Moi, je dirais que c'est que, comme Jessica a dit, la fin du monde, c'est un mot quand même assez lourd. Et comme des adolescents, nous voyons pas le monde encore de cette manière, comme parce que nous encore, on n'a pas encore découvert véritablement le monde, donc on peut pas penser à sa fin si on n'a pas vu son début.
Ici dans le texte, ils disent que mai 68, c'était une bataille de boules de neige. Et vous avez dit que c'était un énorme bouleversement social et politique et tout ça. Donc vous pensez qu'ils ont tort de dire ça, monsieur ?
Je pense que c'est une lecture qui est propre à leur âge. Et je pense que je connais des collègues à moi qui sont enseignants, qui ont fait mai 68. Ils fêtent régulièrement les anniversaires de mai 68. Ça les a marqués dans leur chair. Soit la révolte contre l'autorité, soit un ras-le-bol et une volonté de liberté de la jeunesse. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue, cette liberté de la jeunesse qu'il revendiquait à l'époque ? Je ne sais pas, je ne suis plus de cette catégorie-là. Mais c'était véritablement quelque chose qui, en lequel ils avaient foi, ils croyaient véritablement. Ces jeunes-là, dans ce collectif catastrophe, ils parlent un peu à la fin du texte en quoi ils ont la foi. Ça me semble assez naturel, un peu écologique. Quand ils parlent que, à la fin, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils vont manger des pâtes, ils vont faire du local, c'est une tendance assez marquée de nos jours, revenir à des valeurs très, très locales, terre à terre, proches de nous. Mais mai 68 a été véritablement constitutif d'une philosophie. Alors bien sûr, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce que sont devenus les gens qui ont fait mai 68, il y en a beaucoup qui sont devenus des politiciens. Eux qui étaient révolutionnaires, qui deviennent des politiciens, on peut se demander est-ce que le système ne récupère pas les gens qui font des révolutions. Mais comme disait Youssef, il a raison, à vos âges, on n'est pas encore suffisamment, je crois, riche en expérience pour avoir ce genre de mots durs qu'ils ont dans ce texte. Par exemple, quand vous lisez, bon, vous avez fait du français, vous étudiez la langue française depuis longtemps, et il y a une phrase qui m'a choqué en revanche dans ce texte, c'est « Les utopies avaient toutes été ridiculisées, la poésie rendue barbare après Auschwitz ». La poésie, comment est-ce qu'un cataclysme comme Auschwitz peut rendre la poésie barbare ? Moi, j'ai pas compris. Vous comprenez quoi cette phrase, vous ? La poésie rendue barbare après Auschwitz. Évidemment, tout le monde sait ce qui s'est passé à Auschwitz.
Mmh. Bah, Auschwitz, ça a été une catastrophe, un désastre.
Mais pourquoi est-ce que ça rendrait barbare la poésie ?
Peut-être parce que la poésie, c'est quelque chose de très beau, quelque chose de très lyrique, tout ça. Et Auschwitz, ça nous montre ce que peuvent vraiment faire les hommes, jusqu'où peuvent aller les hommes, jusqu'à quel désastre. Mmh. Et donc après, on voit les choses en noir, toujours.
La poésie, c'est comme de l'invention de l'homme. C'est l'homme qui écrit ses sentiments, alors que Auschwitz, c'est... C'est la bataille, c'est le noir, c'est le chaos. C'est exactement le contraire. Donc, c'est la vérité à Auschwitz, c'est le vrai côté des hommes, le vrai visage des hommes. Donc la poésie est barbare dans le sens où la poésie ment sur la version des hommes.
Ah oui, c'est pas tellement positif tout ça. Et Youssef, tu penses quoi ?
Moi, je dirais plutôt que... Parce que avant, la poésie, c'était surtout pour raconter des sentiments. Même qu'elle soit brutale ou qu'elle soit parfois pas très commune entre les hommes, on pouvait encore, par une certaine mesure, relativiser. Mais là, aujourd'hui, c'était un sentiment que personne n'avait déjà ressenti. Et c'était pour la première fois quelque chose qui était d'une terreur non ressentie par une autre personne. Et c'est pour cela que je trouve que peut-être cette phrase assez... Voilà. Et je voulais juste aussi vous demander une question. Car, par exemple, dans le début du paragraphe, ils nous disent « On nous expliquera que Dieu, le roman et la peinture étaient morts. » Est-ce que vous pensiez que cette phrase, parce que d'après ce que j'ai compris de cette phrase, c'est plutôt ce qu'on nous apprend aujourd'hui. Et que, est-ce que vous pensiez que ceci endommage ou rend l'esprit plus ouvert à tout ce qu'on veut.
Je pense que le rôle d'un enseignant, c'est certainement pas d'enseigner que la peinture est morte, que Dieu est mort, bon, c'est un autre débat. Mais c'est quoi la peinture et quoi, tu disais ?
Le roman et la peinture.
Je sais pas, il suffit de prendre un roman qui t'a bouleversé et te rendre compte que ce roman est encore bien vivant et qui te fait vivre des choses extraordinaires. La peinture, pareil, je pense qu'on peut s'extasier, à n'importe quel âge d'ailleurs, sur une œuvre d'art, une peinture ou quoi que ce soit. Et donc, en effet, je suis pas tellement d'accord avec cette assertion qui nous donne comme ça que... on nous a appris que ils pourraient peut-être faire eux-mêmes l'expérience du contraire. Et quand on expérimente le contraire, on se rend compte que ce qu'on nous apprend, parfois, c'est faux.
Mais en fait, quand ils parlent du roman et de la peinture, ils veulent parler du roman et de la peinture moderne. Donc vous, par exemple, qui avez connu autre chose que la peinture contemporaine, où il suffit d'avoir une toile et un pinceau et on peut faire une œuvre d'art, est-ce que vous pensez que, de ce point de vue, la peinture est morte par rapport à avant ?
Alors d'abord, je ne pense pas qu'il suffit d'un pinceau et d'une toile pour faire une œuvre d'art, sinon tout le monde serait artiste. Et puis je crois que, justement, ce n'est pas tellement évoqué dans ce texte, la sensibilité. On peut éprouver des sentiments. Et il ne parle pas tellement de sentiments dans ce texte. Moi, je crois que, quelle que soit la manière de s'exprimer, qu'un artiste a de s'exprimer, elle peut faire sens à quiconque. Les arts premiers le prouvent, l'art classique le prouve aussi, l'art moderne aussi, même si parfois c'est plus difficile d'accès pour les gens. Mais non, moi je ne pense pas que le roman est mort, même si c'est un roman moderne, je ne pense pas que l'art est mort. On continue de faire de l'art et on peut toujours, si on est triste, on peut toujours retourner dans un musée pour se délecter de ce que nos ancêtres ont fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de raisons de se réjouir. Je ne suis pas en train de dire que le monde est merveilleux, loin de là. Ça serait.
En solution, le texte propose soit de critiquer la vie et de rêver, de l'améliorer, soit de renaître comme on veut. Sans confort, sans sécurité, seulement être soutenu par l'amour. Est-ce qu'il y a une meilleure solution de votre point de vue ?
Alors, c'est pas facile comme question. Une meilleure solution, déjà, il faut rester vivant, déjà, avant de renaître. On est né, on est là. On doit en faire quelque chose. Ils le disent, le suicide n'est pas une solution. Donc déjà, je trouve que c'est pas mal de le dire. Le suicide n'est jamais une solution. Mais renaître, oui, je parlerai de, comment il s'appelle, Descartes, évidemment, qui s'est enfermé, le mythe dit qu'il s'est enfermé dans sa chaudière pour renaître et se reformer complètement. Oui, bien sûr, mais on n'est jamais, on n'est pas des philosophes comme René Descartes. On peut essayer de réfléchir tous les jours à sa vie, et qu'est-ce qu'on en fait, et est-ce qu'on est satisfait de là où elle nous emmène ? Déjà, c'est une grande tâche, je trouve. Maintenant, c'est vrai, c'est un travail, tous les jours, plutôt que de, ils le disent, de refuser la facilité du divertissement, la facilité de la consommation derrière. C'est vrai, c'est plus facile de consommer et de se divertir que de réfléchir et souffrir, ça c'est sûr. Alors vous, à vos âges encore, justement, tu me disais, je te renvoie une question, parce qu'ils disent dans le texte, nous n'en connaissions pas le visage, notre adolescence a passé comme ça, sans que jamais rien ne se passe. Toi, Jessica, as-tu le sentiment que ton adolescence se passe sans que rien ne se passe ?
Ouais.
Pardon ?
Oui.
Ah bon ?
Eh bien, parce que pour moi, je n'ai vraiment rien qui s'est arrivé pour moi. J'ai tout le monde autour de moi qui est en train de changer.
Ouais.
C'est juste, c'est le seul truc que je vois.
Oui, mais quand on... Moi, ce que je lis dans notre adolescence a passé comme ça, sans que jamais rien ne se passe. Tu n'as pas le sentiment que dans ton adolescence, entre le... il y a 3 ans, il y a 2 ans, il s'est déjà passé pour toi des choses très importantes, des sentiments, des réflexions, des émerveillements, de grandes douleurs. Il s'est passé des choses, ou rien?
Non, rien.
Ok.
Bah, effectivement, on grandit, on change, tout ça. Mais au fond, on fait toujours un peu la même chose, quoi. On est à l'école depuis qu'on est tout petit, et puis on apprend, et puis on va en vacances quand il n'y a pas école, et puis voilà, et finalement, il ne se passe pas énormément de choses.
C'est toujours le même tour.
Forcément, il se passe que pendant notre adolescence, notre mentalité change, donc forcément, il se passe des choses... au niveau des sentiments, mais je ne saurais pas vraiment le décrire, je ne saurais pas vraiment dire ce que c'est, parce que moi-même, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est la seule chose qui m'est arrivée durant mon adolescence.
Moi, je dirais plutôt que, comme il dit, notre adolescence a passé comme ça sans que jamais rien ne se passe. C'est juste qu'en tant qu'adolescent, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est juste quand on fait la réflexion, quand on grandit, qu'on revoit que beaucoup de choses ont changé en temps. Et qu'on revoit que, comparé à notre âge, quand on sera adulte, que beaucoup de choses se sont passées, mais on ne s'est pas juste rendu compte.
Mais je suis absolument d'accord avec toi, Youssef. Je pense que vous n'avez forcément pas... Vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas avoir le recul de ce que vous vivez. Moi, je parlais plutôt, quand je posais la question, en termes de joie simple, de bonheur simple, sans se poser de questions. Et ça peut déjà générer un petit bonheur. Le fait de sentir qu'on est installé dans quelque chose qui, comme tu le dis, Paul, tous les jours à l'école, bah, c'est la seule tâche qu'on demande à un adolescent, c'est de se former en prenant de l'instruction. Tu pars en vacances, t'as beaucoup de chance. Mais je pense que ce que vous vivez maintenant seront les bases de vos souvenirs d'adolescent pour plus tard. Et donc, c'est constitutif de qui vous allez être plus tard. Si jamais maintenant, comme Jessica a dit, il ne se passe rien, est-ce que c'est générateur chez toi d'un genre de je ne vais pas dire déprime, parce que moi, quand on est adolescent, on n'est pas déprimé.
On peut.
Ah ben, ça, c'est intéressant. Et c'est quoi la dépression d'un adolescent?
C'est... Ça veut dire d'expliquer, mais genre... C'est comme il y a tout le monde genre autour de toi, genre, qui t'insulte, exemple pour les adolescents, genre il y a cette personne genre en première qui est en train de m'insulter, il est en train de me frapper, il est en train de chercher quoi. Ouais. Parce que maintenant genre dans ce siècle là, il y a trop de gens qui font où il y a le cas du suicide à cause de ce sujet là.
Du harcèlement.
Du harcèlement, ouais. Ça arrive genre, peut-être tous les jours.
Mais alors, je me projette encore dans ce que tu me dis. Moi, je me souviens, j'étais avec un groupe d'amis très, très, très solide. Et on se fichait complètement de ce que les gens pouvaient nous dire. On avait une certitude entre nous parce qu'on était extrêmement fusionnels et avec des intérêts communs qui restaient très gentillets. Moi, c'était la mythologie grecque et romaine. Bon, voilà. Et du coup, ça nous concernait pas. Et il y avait, j'imagine, tout autant de harcèlement à mon époque que maintenant. Mais surtout, on se sentait isolé parce qu'on était ensemble, quoi. Et je, jamais, dans mon adolescence, j'ai eu un sentiment de dépression. Jamais.
Mais aussi, genre, pour vous, dans votre époque, c'était un peu plus différent que le nôtre.
Certainement. L'image était moins... Il fallait moins, je crois, véhiculer une image stéréotypée, peut-être. Il fallait... Oui, il y avait beaucoup de choses différentes, c'est sûr.
Parce que maintenant, dans notre époque, il y a la plupart des parents qui sont en train d'avoir un divorce ou deux.
Alors oui, c'est sûr.
Alors ça va te rendre dépressé, parce que t'aimes ton père et aussi t'aimes ta mère, et tu dois aller genre... chez lui, chez elle, genre chaque semaine,
oui,
mais ça change.
Peut-être qu'on demande à un adolescent à notre époque d'être un peu moins adolescent ou d'être un peu plus vite adulte, quoi.
Et aussi, dans cette époque-là, quand t'es adolescent, t'es aussi considéré un adulte.
Alors,
maintenant, avec cette société-là, il y a tout le monde qui te considère comme un adulte.
Ou comme un pré-adulte. D'ailleurs, le mot pré-adulte est un peu un post-adolescent, un pré-adulte. Ouais. Ouais.
Et puis vous, monsieur, par exemple, vous parliez que vous étiez intéressé dans la mythologie grecque et romaine. Sauf qu'en fait, le problème maintenant, c'est que généralement, les jeunes, eh ben, en fait, ils sont plus intéressés par rien. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut voir les choses quand ici, ils disent que tout est fini. C'est que maintenant, les gens, ils sont plus intéressés.
Mais plus intéressés, moi, j'ai du mal à imaginer qu'on ne puisse plus être intéressé par le... Ils en parlent dans le texte, hein, par le rêve, juste le rêve. Et je pense que l'adolescence est l'âge privilégié. On n'a pas justement de compte à rendre à quiconque, sauf avoir des notes correctes en classe. Et voilà, et donc il me semble qu'on a beaucoup de temps libre quand on est adolescent, non? On a du temps libre quand on est adolescent?
Non.
Il y a trop d'évaluations.
Ah, alors là, c'est vraiment un problème. Il faut, je sais pas comment il faut régler ce problème, mais moi, je me souviens qu'à mon époque, on avait beaucoup de temps libre. Peut-être qu'on était moins pressurisé par l'école, en effet. Le système était peut-être moins dur pour avoir des résultats, pour avoir le meilleur bac possible, la meilleure situation. C'était avant le chômage de masse, moi, donc ça date quand même.
Mais aussi, c'était dur parce que vous n'avez pas l'Internet.
Alors, mais vraiment, je rebondis là-dessus parce que... Non, moi déjà, je m'en sers... Mais non, bien sûr que non, on ne connaissait pas. Moi, il y avait un téléphone dans la maison pour les... On était quatre. Bon, bah, si on devait passer un coup de fil, on attendait que le premier ait fini son coup de fil pour passer son coup de fil. Et ma vie, je ne crois pas, a été plus malheureuse parce que j'avais pas Internet. On avait beaucoup de jeux société, beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de jeux à l'extérieur. Non, moi, je définirais mon adolescence comme une grande période bleue, merveilleuse. Mais il y avait beaucoup de rêves dedans. On rêvait beaucoup, avec mes copains et mes copines, on se projetait beaucoup. On va faire ça, on rêve de ça. J'ai du mal à imaginer un adolescent qui n'a pas ce côté un peu onirique de se projeter.
Justement, ici maintenant, les gens sont beaucoup comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, avant, nos parents, quand ils étaient au collège, pour la plupart, ils savaient quel métier ils voulaient faire, ils avaient des envies. Mais maintenant, les gens ici ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont pas de rêve, ils n'ont pas vraiment d'envie, ils visionnent pas leur futur. Ils se projettent pas en avant, ils sont juste dans le moment présent et puis ils en font le moins possible.
Voilà. Roger veut dire quelque chose.
Ils disent aussi que s'il n'y a rien, enfin, moi en tout cas je dis si on ne fait pas tout ce qu'on veut maintenant, qu'est-ce qu'on fera plus tard? Donc je ne pense pas vraiment au futur, je pense à maintenant. Comme ça je fais ce que je veux maintenant et après, bah. Après, ça se passera quand ça se passera. Je pense pas à ce qui se passera après. Mmh. C'est pas intéressant.
Donc, profitez aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mmh. Mais libre à toi de construire ce qui va se passer demain, Colline. Non ? Tu te sens pas 1 sur 6 milliards pour l'avenir ? Tu te sens déconnecté du monde et juste prendre ce qu'il va prendre et puis. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand je parle du rêve, justement, c'est un rêve qui s'intégrait. Moi, quand j'avais des rêves, il s'intégrait parfaitement dans la société. Je me souviens très bien de ce que je voulais, de ce que je désirais comme situation et tout et tout. C'est resté des rêves, hein. Je n'ai pas du tout devenu ce que je pensais. Mais ça nous émulait mutuellement avec mes copains et copines de se parler de ça. Et d'ailleurs, quand on se revoit ultérieurement, c'est drôle parce qu'on est complètement décalé par rapport à ce qu'on imaginait.
Juste aussi, ils disent, on nous expliqua que Dieu était mort. Pourtant, sur les 7 milliards d'habitants sur Terre, il y a encore plus de la moitié qui est croyant en diverses religions.
Bien plus que la moitié.
Oui, bien plus que la moitié. Donc, est-ce que vous pensez que maintenant, il y a de moins en moins de gens qui sont croyants quand même et que dans le futur, peut-être, Dieu, effectivement, sera mort, comme ils disent?
Alors, vaste débat. Je ne sais pas si on pourra en faire le tour aujourd'hui. il faudra déjà se mettre d'accord. Est-ce qu'on a tous la même conception de Dieu? Est-ce qu'on est tous d'accord de ce que représente Dieu à nos yeux, quoi? C'est pas sûr. Il y en a pour qui c'est quelque chose d'extrêmement indispensable. Il y en a d'autres qui disent juste que c'est une façon de vivre, une façon d'organiser sa vie. Donc c'est pas facile comme question, Paul. Hein. Et puis en plus, à vos âges, moi je me souviens qu'à vos âges, Dieu, c'était un peu le cadet de mes soucis, hein. Justement parce que c'était pas la vraie vie, quoi. Alors après, quand on commence à vieillir et qu'on essaie de donner un sens aux choses, à quoi ça sert tout compte fait? Ben, on se rend compte que peut-être il y a quelque chose de supérieur, de qui transcende. Mais c'est pas facile, hein. Ça y est, c'est l'heure.
Eh ben, on pense que cette tribune manque un tout petit peu de sentiment.
Ah bah non, parce qu'en fait, moi, Ellie, ça m'a inspiré. J'ai écrit une chanson là-dessus qui s'appelle Maxime, et avec laquelle on va tout de suite enchaîner.
Ah, Maxime, DJ Ellie, frérot, on va t'écouter. Raconte-nous, Maxime, ta vie de chômeur. Comment ça se passe pour que les gens sachent que c'est dur d'être chômeur? Ouais, raconte-nous, on est prêt à recevoir. Allez. Tous les matins, je me lève, puis j'observe par la fenêtre des gens qui vont au boulot, travailler pour s'acheter de l'eau, et puis là, je me regarde. Et je me dis, merde, je suis au chômage. Désespéré, je me dirige vers mon lit, en espérant oublier ma vie. Soudain, on frappe à la porte. Quand j'ouvre, c'était ma surprise. C'est la personne à qui je dois tout mon respect. C'est la personne qui m'a toujours aidé. C'est la personne qui connaît tout sur ma vie et qui sait que j'ai pas d'amis. C'est elle, c'est ma meuf. Une personne posée, une fille belle et en plus prof de français. Des gens comme elle, il y en a pas beaucoup. Elle sait que j'ai pas de travail et casse pas notre couple, mon gars. Sans elle, je suis foiré. Cousin, sans elle, je peux rien me payer. Une fois chez moi, elle me dit, viens, on sort aujourd'hui. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas d'emploi. Du coup, c'est elle qui paye à chaque endroit. À chaque fois qu'on sort, c'est elle qui paye, comme j'ai dit. J'en ai marre de cette situation. Faut que ça change, mais sans emploi, rien ne change. Tous les matins, je me lève, puis j'observe par la fenêtre des gens qui vont au boulot, travailler pour s'acheter de l'eau, et puis là, je me regarde. Et je me dis, merde, je suis au chômage. De bon matin, je descends dans la rue. De gauche à droite, il y a que des costumes. Et moi, au milieu, avec mon style de chômeur. Un pantalon trou et un petit débardeur. Ah. J'en peux plus, ma vie est devenue trop dure. Excuse-moi, meuf, je vais te laisser tomber. Si tu as vraiment envie de me retrouver, tu sais où tu peux me trouver. Au paradis, j'attends avec impatience ton arrivée.